Bonjour à tous, bienvenue dans Du grain à moudre d'été. Ce soir, les forêts face au changement climatique sont-elles condamnées à mourir ? Il est 18h15 et le soleil bientôt couchant fera la place aux ténèbres dans nos forêts de France. L'elfe obscur se fera le veilleur des lieux. Les lavandières de nuit tendront leur piège. Ondine prendra son bain de minuit, surveillé par les fées déchues, les fées des ombres. La forêt est un endroit magique. Parmi ses pouvoirs miraculeux, elle a celui de réguler le climat. Prenez le frêne qui, à maturité, stocke l'équivalent de 5 tonnes de CO2. Encore un coup des génies sylvestres. À l'échelle de la France entière, les forêts, toutes essences confondues, nous soulagent, paraît-il, de 70 millions de tonnes de dioxyde de carbone. Mais pour magique qu'elle est, la forêt n'est pas un remède à tout, et peut-être l'avons-nous un peu trop pensée comme un outil au service de l'économie d'abord, mais aussi de nos inquiétudes climatiques, comme s'il suffisait de reboiser pour nous autoriser à continuer à polluer. Ce mois de juillet aura été le plus chaud jamais mesuré dans le monde, d'après une étude européenne publié ce matin. Quand en Sibérie les forêts brûlent et les animaux avec, chez nous en France, des milliers d'arbres sont à l'agonie. Est-il encore temps d'agir ? Faut-il revoir aussi la façon dont on exploite nos bois et nos sous-bois ? Les forêts face au changement climatique sont-elles condamnées à mourir ? Nous en débattons jusqu'à 19h avec trois invités. Bonsoir Brigitte Muche.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous travaillez à l'ONF, l'Office National des Forêts, en tant que généticienne au département Recherche, Développement et Innovation. Et vous êtes ici en studio avec Alain Lesturger. Bonjour, bonsoir.
Bonsoir.
On est entre chien et loup. Non, pas tout de suite. Vous êtes directeur général de la Fédération Nationale des Communes Forestières de France. De quelle commune forestière venez-vous, vous ?
Ah ben moi, je suis picard d'origine.
D'accord. Donc les forêts picardes. Et combien de communes compte cette fédération de
6 000.
6 000. Bon, est-ce que vous agissez comme un syndicat des communes forestières? Et face à quoi et face à qui?
Pas seulement. On agit en tant que syndicat de défense des communes propriétaires de forêts, mais plus largement de communes qui s'intéressent à la filière forêt-bois.
Voilà, vous êtes en duplex également. Nous sommes également en duplex depuis Mont-de-Marsan avec Hervé Le Boulaire. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, responsable forêt à France Nature Environnement, et je m'entends parler. Vous êtes membre du Conseil économique, social et environnemental. Merci aussi à l'équipe de France Bleu Gascogne qui vous accueille dans ses studios. Alors, on parle beaucoup de nos forêts comme de nos poumons, celles qui contribuent à limiter, mais pour combien de temps, les dégâts du changement climatique. Brigitte Muche, quand l'État a décidé de reboiser la France au début du XXe siècle, c'était en partie pour des raisons économiques. Est-ce que c'était aussi avec un souci de réguler le climat ? Ça existait, cette préoccupation ?
Alors, réguler le climat, peut-être pas, mais arrêter l'érosion en montagne, par exemple, arrêter la progression des dunes sur la côte atlantique, très certainement, puisque c'est la restauration des terrains de montagne qui a permis d'avoir ces magnifiques forêts que l'on a maintenant dans les Alpes et les Pyrénées, et les Landes de Gascogne, qui datent de Napoléon III.
Quels sont les arbres qui permettent le mieux de retenir l'eau et d'éviter les inondations et l'érosion ?
Alors, différentes espèces peuvent jouer ce rôle-là, du moment qu'ils ont un système racinaire assez important. Mais surtout, il faut qu'ils s'adaptent à la fois au climat et aux conditions de sol.
Voilà, Hervé Le Boulaire, racontez-nous un peu comment agit telle ou telle espèce, vos espèces préférées. Voilà, je parlais du frêne tout à l'heure, mais il y en a plein d'autres. Comment ça fonctionne ?
Ben, déjà, moi je suis un forestier depuis tellement longtemps que j'ai l'impression que je l'ai toujours été. On va pas demander à une maman quel est l'enfant qu'il préfère.
Ah, vous êtes donc le père de tous ces arbres alors ?
Non, bien sûr que non, je suis pas le père de tous ces arbres. Il y en a des milliards. Mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. C'est-à-dire que les arbres sont là, ils sont la chose la plus visible. Et c'est eux et tout ce qu'il y a autour, qu'on appelle la biodiversité, qui font forêt. Et en fait, je pense que l'essentiel, c'est qu'une forêt soit en bonne santé et qu'elle fonctionne. Et le problème avec le changement climatique, c'est que maintenant, les forêts ne meurent pas, mais elles souffrent et elles sont malades.
Mais je vous demande quand même de nous raconter comment ça marche. Prenez une espèce pour qu'on comprenne en quelques mots comment ça marche, cette photosynthèse et cette protection de l'environnement par les arbres.
On va prendre l'épicéa commun, qui est une espèce en difficulté. L'épicéa commun vit dans les montagnes. C'est une espèce qui est très intéressante pour l'économie. Elle fait des bois blancs qui sont remarquables. On en fait aussi des instruments de musique. et on peut la cultiver. Et elle ne peut vivre que si elle est à l'intérieur de conditions qui lui permettent de vivre. Ces conditions, entre autres, sont la sécheresse. Et si la sécheresse devient trop forte, comme on le voit dans les basses montagnes, eh bien les épicéas communs souffrent. Et là, on voit la complexité des systèmes forestiers. Il y a de tout temps un petit insecte qu'on appelle le scolyte, qui, lorsque l'arbre est malade ou lorsqu'il a été cassé, va venir manger l'épicéa commun. Sauf qu'avec le changement climatique, il y a un phénomène nouveau qui se passe. Le scolyte se multiplie parce qu'il aime bien la chaleur et on a des dégradations. Donc tout ça pour dire que la forêt est remarquablement adaptée à son environnement depuis des milliers d'années, depuis le dernier réchauffement glaciaire. Et là, le réchauffement actuel est tellement rapide, tellement fort, que, je dirais, les forêts ne savent plus vraiment où elles habitent aujourd'hui, ou en tout cas là où elles sont. Elles ont des difficultés à pouvoir continuer à y vivre.
Voilà, ce scolyte dont vous parlez aujourd'hui fait quoi, 4 générations par an au lieu de 2 avant, parce que la période chaude est de plus en plus longue.
Non, déjà, qu'elle en fasse 3 ou 2 au lieu de 1, mais je pense qu'Alain Lesturgé pourrait parler de ce qui se passe dans les forêts communales de l'Est de la France et de toute la désorganisation que provoque ce dépérissement de l'épicéa en France et aussi en Europe.
Alors Alain Lesturgé, qu'est-ce que vous avez vu de vos yeux vus dans les, alors, les forêts picardes que vous connaissez bien, mais les forêts aussi de l'Est de la France où sans doute vous vous déplacez, parce que contrairement à ce qu'on peut penser en premier lieu, ce ne sont pas les forêts du Sud qui souffrent le plus, là où la chaleur est peut-être la plus intense et la plus longue l'été, mais en ce moment c'est vraiment vers l'Est que se tournent les regards.
On a eu quelque chose qui a été quand même assez remarquable, c'est qu'on a eu 4 départements qui ont été en vigilance canicule, vigilance rouge, qui étaient les Hauts-de-France, c'est du jamais vu. Donc dans le Grand Est, au-delà même de voir ce qui se passe, c'est le désarroi de nos élus, c'est de dire face à quoi on est aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer. Et puis c'est pas que en France, j'ai reçu ce matin les photos de la Tchéquie, de collègues forestiers tchèques. C'est absolument... Alors, je veux pas rentrer dans le catastrophisme parce que c'est tellement facile de rentrer là-dedans, mais on est dans une situation très sérieuse. Des pans entiers
de collines...
Qu'est-ce
que vous avez vu sur ces photos,
oui. Des pans entiers de collines qui sont totalement coupés parce qu'il faut récolter ces bois. Si on ne les récolte pas, les risques d'incendie augmentent. On voit l'Antarctique est en train de brûler, etc. Donc on est face à quelque chose que nous n'avons jamais connu et qu'il faut absolument prendre à bras le corps.
Brigitte Muche, qu'est-ce que vous avez vu qui vous a le plus marqué, choqué ?
Alors, ce que l'on voit, c'est à la fois, en effet, des dépérissements d'épicéas, des pins entiers, mais aussi, hein, parce que y a pas que, c'est pas tous les arbres qui meurent lorsqu'on regarde une forêt. On a des arbres qui restent verts. Hein, donc ça aussi, on le voit, c'est un mitage.
Plus lesquels
exactement,
restent verts, alors?
La même espèce. De la même espèce, dans une même forêt d'épicéas, certains restent verts et certains meurent. Donc il faut comprendre pourquoi ceux-là restent vivants et pas ceux juste à côté. La diversité génétique est peut-être une des raisons de cette adaptation locale. Ce que je vois aussi, c'est des arbres qui, en effet, se meurent des fois lentement. Lorsque on traverse l'Europe et que l'on regarde les chênes, eh bien, plus on va vers le sud, moins il y a de feuilles dans les houppiers, dans les couronnes, moins on a de branches qui sont vivantes. Parce que tout à l'heure, vous le disiez, comment on voit qu'un arbre souffre ? Un arbre, c'est comme vous et moi, il transpire lorsqu'il fait chaud. Donc plus il fait chaud, plus il va transpirer. Et s'il transpire, il va absorber de plus en plus d'eau. Et lorsqu'il n'y a plus d'eau, il y a des bulles d'air qui se forment. Et ces bulles d'air vont faire mourir des branches dans la cime. Donc voilà.
On parle d'embolie, c'est ça pour les
arbres ? Exactement, on parle d'embolie, comme chez les humains. Si vous avez un petit peu de gaz dans les vaisseaux sanguins, c'est pas très bon.
Hervé Le Boulaire, dans le Jura suisse proche des forêts de l'est de la France dont vous parliez tout à l'heure, des élus, des riverains parlent de hêtres qui des forêts de hêtres entières qui dépérissent à vue d'œil. Des professionnels racontent qu'ils se cassent comme du verre. Plus, je crois qu'il y a aujourd'hui plus de 100 000 mètres cubes de bois devenus complètement secs ou en passe de dépérir dans certains cantons suisses. Donc la sécheresse est ce qui saute aux yeux, ce qui apparaît le plus flagrant, le dysfonctionnement de la photosynthèse que vient de raconter Brigitte Muche. Qu'est-ce que vous voyez d'autre? Quels sont les autres signaux qui vous alertent sur une forêt en mauvais état?
Eh bien, c'est avant même les analyses scientifiques, je dirais c'est l'œil du forestier, et c'est assez remarquable de voir que lorsqu'on est entre forestiers, que ce soit des forestiers privés, publics, on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui va pas. Alors ça se traduit par des changements de couleur, ça se traduit, je suis allé il y a un mois sur le premier plateau du Jura, et on voyait bien qu'il y avait quelque chose qui coinçait, mais j'étais il y a 15 jours à Marciac, festival de jazz, enfin là où il y a le festival de jazz, et on voit sur les collines des choses qui vont vraiment mal. Et ce qui est remarquable, c'est que tous les types de forêts sont touchés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grande différence entre des réserves naturelles dans lesquelles l'homme n'intervient pas, des forêts mélangées, des forêts monospécifiques ou des plantations. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un problème systémique qui est le problème du climat. Et on a un collègue qui travaille à l'Institut de développement forestier qui parle de la théorie du boxeur. On peut avoir des années difficiles, on les a connues en 1975-76, dans les années 90. La forêt prend une claque et par la résilience, elle se remet en état. Là, elle est en situation de prendre des coups absolument tous les ans. Quand on regarde des forêts qui sont en grande difficulté, les forêts de Compiègne et de Chantilly dans le sud de l'Oise, de magnifiques forêts de chêne, et quand on regarde le climat annuel, chaque année depuis 10 ans, le climat est dans une situation, met les arbres dans une situation où il n'y a pas suffisamment d'eau dans le sol pour répondre aux besoins. C'est surtout ce système. On a un collègue finlandais qui a publié un papier qui dit ce qui était exceptionnellement dur devient la normalité. Et si on regarde sur les températures, on peut reprendre aussi ces notions d'effet de seuil. Nous, êtres humains, à 37 degrés, on va bien. À 38, on a un peu mal à la tête. À 39, ça devient vraiment difficile. Et si on passe à 42 degrés, là, on meurt. Et il y a probablement des effets de seuil sur les forêts. Et contrairement à ce qu'on imaginait, je pense à une collègue, Myriam Leguet, qui est directrice de l'école de Nancy, qui disait, tout ça, on s'y attendait, mais on vit quelque chose d'étrange, parce que ça arrive maintenant, depuis l'année dernière et cette année. Vous parliez de 100 000 mètres cubes, je crois que c'est en centaines de millions de mètres cubes qu'il faut compter au niveau mondial, les volumes de bois sur pied qui sont en train de dépérir, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur la filière économique.
Alain Lesturgé.
Oui, ça fait un moment quand même que les forestiers sentent ces effets. Ça fait de nombreuses années qu'on commence à voir que les forêts réagissent, ont des difficultés, etc. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui avait été prévu dans 20 ans, c'est en train d'arriver beaucoup plus tôt. Et on a quand même l'intelligence collective de commencer à travailler ensemble. Je prends l'exemple du frêne, par exemple. Le frêne est attaqué par une maladie, la calarose, et on a détecté des individus résistants. Est-ce qu'ils résisteront l'année prochaine ou dans 2 ans avec ces sécheresses répétées? Mais on sélectionne, on regarde. On a connu des époques où quand il y avait des attaques, on rasait tout et puis on cherchait pas. Et alors que à l'intérieur des individus, il y avait des individus résistants et qui pouvaient s'adapter. Compte tenu de la rapidité avec laquelle le changement climatique se met en place, il va falloir qu'on soit triplement intelligent, 10 fois plus intelligent pour regarder ce qui se passe. Et sur ces arbres, sur ces individus qui peuvent être la réponse pour le futur.
Et c'est le cœur de votre travail, Brigitte Muche, en tant que généticienne à l'Office national des forêts. Avant de parler de volonté politique, est-ce qu'on a d'abord les moyens techniques d'assurer l'avenir des forêts, là où les espèces qui sont présentes aujourd'hui ne seront peut-être ou sans doute plus compatibles avec le climat dans les décennies à venir? Sur quoi vous travaillez, vous, en ce moment, en tant que généticienne?
Alors, en tant que généticienne, actuellement, on travaille à essayer de donner un panel de solutions aux forestiers. Je pense que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas une solution, mais des solutions. Des solutions avec la diversité génétique des espèces, la diversité entre espèces, ça fait partie des solutions, et d'autres types de solutions. Ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est ce que vient de dire Monsieur Lesturger, c'est qu'il faut travailler ensemble.
Oui, alors donnez-nous des exemples, puisque Monsieur Lesturger l'a dit qu'il fallait travailler ensemble. Avançons. Donnez-nous des exemples, des projets passionnants alors, sur lesquels vous êtes en train de travailler, le projet Giono par exemple.
Alors, on travaille à différentes échelles, hein, à l'échelle de l'individu, avec l'INRA par exemple de Bordeaux, hein, qui fait un travail formidable sur l'étude de l'évolution du génome, hein, lors de crises climatiques. Hein. Donc ça pourrait être une raison d'espérer pour que les espèces s'adaptent sur place. Ensuite, ce que l'on a fait là depuis maintenant 2011, c'est que on se rendait bien compte qu'on avait des problèmes de dépérissement. Les modèles climatiques nous annonçaient que ça allait être de pire en pire. Donc, on a sélectionné un certain nombre de populations qui étaient en danger et qui étaient surtout dans des zones sèches.
Lesquelles et où, par exemple?
Alors, par exemple, on a travaillé sur le chêne Cécile, hein, en forêt de Vachère, à côté de Manosque, ou même le chêne de Troncé, parce que en région centre, on a des étés très secs, hein, ce qui fait la qualité de ce chêne. Et ces chênes, qui sont adaptés depuis longtemps à ces conditions climatiques, on les a introduits dans une autre chênée, climatiquement compatible plus longtemps, hein, pour le chêne, cette zone compatible plus longtemps, donc Verdonne en l'occurrence. Et l'idée de ce projet, c'est que à la génération suivante, les gènes, les combinaisons alléliques de ces arbres venant de zones sèches vont se mélanger avec celles qui sont en place.
Donc ça, c'est un pari.
C'est un pari.
Et ça sera quand, la génération suivante?
La génération suivante, chez les chênes,
hein, c'est 50 ans.
Non, ils fleurissent un peu avant, hein, 50 ans.
Hervé Le Bouler, comment on anticipe ce qui sera le comportement des arbres dans leur nouveau climat dans 50 ans?
Alors, moi déjà, je voudrais dire une chose que Brigitte Muche n'a pas dit, c'est que pour faire ce travail gigantesque, les moyens et les moyens que donne l'État sont dérisoires. Il y a une structure, alors ça s'appelle un réseau mixte technologique, un RMT, ça s'appelle AFORCE. C'est le rassemblement de tout ce qu'il y a comme bonne volonté et compétences, et elles sont gigantesques, au niveau de la France. Et quand on fait le tour de toutes ces compétences, on arrive péniblement à quelques dizaines de personnes. Quand on
dizaines
sait que
de
la
personnes,
forêt française...
Mais il y a plein d'associations, Hervé Le Bouler, qui luttent aussi pour la survie de leur,
oui,
de leur forêt
mais
locale.
Là, bien sûr, mais là, on a affaire à des gens qui prennent soin, on a affaire à des médecins des forêts, arbres. Des médecins des arbres qui utilisent toutes leurs compétences, et c'est un véritable scandale que, pour ce qui représente un tiers du territoire, on n'a seulement que quelques dizaines de postes qui sont financés pour faire ce travail, alors que pour des stupidités, je pensais, tous les jours, les centaines et les milliers de personnes qui passent leur temps à essayer de vendre des choses totalement inutiles, à être dans la futilité. Donc moi, je voudrais aussi le dire et lancer ce message. Il faut absolument des moyens pour que les forestiers et les gens de la recherche et du développement puissent travailler. Et il faut assurer l'avenir de l'ONF. C'est au moment où on a le plus besoin de déforestier que l'on dit que tout ça coûte très cher, qu'il faudrait faire des économies, etc.
La dette de l'ONF est aujourd'hui à 340 millions d'euros. Elle a augmenté de 60 millions l'année dernière. Donc c'est sûr que c'est pas le moment. En tout cas, on vous répond pas favorablement pour ce genre de demande, j'imagine.
Bon, on est plus dans le climat, mais 340 millions d'euros, ça représente combien de kilomètres d'autoroute? Rien du tout. Donc, on est vraiment dans une situation extrêmement difficile. Mmh. On n'a pas forcément des réponses, mais imaginez une catastrophe sanitaire ou un accident, les médecins, les pompiers qui sont sur place, ils ne se posent pas la question de savoir s'ils ont toutes les réponses, ils font leur boulot, ils prennent soin de la forêt, et on n'est pas sans rien. Moi, j'ai travaillé pendant des années au département recherche, j'ai même travaillé avec Brigitte et d'autres. On a accumulé des connaissances avec les moyens qu'on avait, on aurait eu 10 fois plus de moyens, on aurait appris 10 fois plus de choses, sauf qu'on pensait que ça arriverait dans 20 ans. Et là, ça nous tombe dessus.
Alors, continuons un petit peu sur justement les moyens dont vous disposez. On ne sait pas encore, je vous disais tout à l'heure, comment certaines espèces vont s'adapter au nouveau climat. Alors, il y a des projets qui sont en cours sur lesquels vous avez aussi, Hervé Le Bouler, travaillé. Les projets qu'a énoncé tout à l'heure Brigitte Muche de repeuplement de parcelles, jouer sur la diversité quand on repeuple une parcelle, aller chercher des espèces issues du sud de la France pour les mettre dans l'est, etc. Mais comment on sait comment les espèces vont s'adapter dans 50 ans? Puisqu'il y a une dose d'incertitude tellement énorme sur ce que sera le climat dans 50 ans. Oui, Alain Lesturge, j'ai voulu...
Je pense qu'il faut être extrêmement humble sur ce qui est en train de se passer. Les forestiers, les gens qui travaillent en forêt sont en général des gens humbles. C'est pour ça qu'on parle pas beaucoup de nous d'abord. Parce qu'on n'ose pas dire ce que l'on fait et ce que l'on est.
Alors allez-y.
Et là, vraiment, je crois que cette humilité, va falloir que ça cesse. Vous parliez de moyens, on nous chipote sur des millions d'euros, sur des etc.
Il y a des tas. Qui on vous chipote?
L'ensemble. On ne prend pas en compte réellement la problématique.
Cette forêt, la République, alors que
nous venons d'interpeller, d'alerter le président de la République.
Parce que
notre président national, Dominique Jarlier, vient d'alerter le président de la République. Non pas parce que le président de la République peut tout, mais parce que dans le code forestier, il est indiqué clairement que les forêts sont sous la protection de la nation. Donc le président de la République incarne la protection des forêts et la volonté d'avoir une politique nationale. Et j'insiste sur un point qui devra être décliné d'un point de vue territorial. Il ne se fera rien, il faut une stratégie nationale avec des applications territoriales. Brigitte l'a dit tout à l'heure, il y a des tas de choses qui se font, il y a des tas d'intelligences collectives, il y a des tas de projets, etc. Mettons-les en commun pour avancer, soyons humbles sur ce qui se passe, soyons...
Très bien.
Oui. Pour avancer.
Mais justement, l'intérêt de ces 45 minutes d'émission, ça passe vite, et c'est de les évoquer, ces solutions-là. Est-ce que certaines espèces, est-ce qu'on peut miser sur le fait que certaines vont s'adapter naturellement? Après tout, on a bien en France des arbres dits remarquables. Je pense au châtaignier de Marigneux dans l'Ain qui date de 1515. Ici et là, des tilleuls de 300 ans qui ont dû quand même en subir quelques-uns des épisodes climatiques extrêmes. Bon, sans compter les arbres qui ont 5000 ans en Californie ou les cyprès de 5000 ans. Voilà, Brigitte Muche.
Oui, alors tout à fait. Les arbres ont énormément de diversité génétique et c'est vraiment le moteur de l'adaptation. Donc on peut espérer en effet que les espèces s'adaptent. Mais ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est que la vitesse du changement climatique n'est absolument pas comparable à celle qu'on a pu connaître dans le passé. Par exemple, lorsque on parle des dernières glaciations, la recolonisation a pris plusieurs milliers d'années. Il faut savoir que un chêne, naturellement, dans un milieu relativement ouvert, c'est ce qu'on a pu montrer dans des travaux avec l'INRA, il ne parcourt que 300 mètres par an. Or, il faudrait qu'il fasse pratiquement 10 fois plus avec le changement climatique. Donc, on peut miser sur différentes choses. Et avec toutes les incertitudes, alors soyons humbles, comme le dit Monsieur Lesturger, en effet, mais il faut s'ouvrir à plein de solutions. Une des solutions, en effet, c'est que l'espèce, parce qu'elle a une énorme diversité génétique, puisse localement s'adapter. il y aura quelques individus qui vont être résistants et qui pourront donner des descendants qui le seront aussi. Par contre, ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est que les descendants, ils vivront déjà plus dans le même climat que ceux que ses parents ont connus lors de la reproduction. On peut, ce que j'expliquais tout à l'heure avec le projet Giono, faire de la migration assistée, aider les arbres à faire 10 fois plus que ce qu'ils peuvent faire pour migrer et aller s'adapter.
Mais alors, oui, jouer sur la diversité des espèces, laisser aussi la sélection naturelle faire son office, puisqu'on entend quand même dans ces projets dont vous parlez qu'il y a aussi un petit peu de ça. A priori, c'est pas possible dans toutes les forêts exploitées, en tout cas celles qui sont exploitées à une échelle industrielle. Est-ce que vous sentez que ces questions de changement climatique, de ce que ça entraîne sur les forêts, est-ce que ça intéresse non pas seulement les propriétaires des forêts, mais les gestionnaires, Alain Lesturger? Est-ce qu'il y a une prise de conscience?
Il y a une prise de conscience de tout le monde. De tout le monde. De toute la filière.
Pas de langue de bois, ça accélère la déforestation.
On a un adage au niveau des forestiers, c'est imiter la nature, hâter son œuvre. Alors là, c'est encore plus vrai aujourd'hui. Il va falloir être encore plus rapide pour savoir. La nature a pas besoin de nous, On a créé les forêts. La forêt de Fontainebleau, elle a été créée. Les arbres de haute futaie, c'est parce que nous l'avons cultivé, nous l'avons accompagné, les forestiers avec attention, etc. Donc tout le monde est en train de prendre conscience. Là où il y a effectivement pour nous un débat avec l'aval de la filière, c'est nous. Moi, je considère dans mon métier de forestier qu'il va falloir faire des mélanges d'essences. Parce que de toute façon, il faut agir maintenant.
Mais vous n'êtes pas le seul. Ça se dit depuis des années qu'il faut des mélanges d'essences.
Dans l'aval, on voudrait avoir des espaces un peu spécialisés avec de la monoessence.
Il y en a plein. C'est pas seulement un petit peu. Il y en a partout en France des espaces entiers consacrés. Je pense aux Douglas qui sont en plus bien adaptés, 45 cm de diamètre.
Prenons l'exemple du Douglas et Brigitte peut vous en parler. Alors. On en parlait juste avant l'émission.
Brigitte, qu'est-ce que vous voulez dire sur le Douglas? Qui peut être très beau par ailleurs, mais là on les sent tous faits pour les machines, quoi, pour la récolte.
Alors ils sont destinés à l'exploitation. Il y a de tout, chez le Douglas. On parlait du Douglas parce que c'est une essence qui a été introduite, bien que on puisse retrouver traces du Douglas dans les pollens du tertiaire, donc avant les glaciations, il était bien présent en Europe. C'est une espèce qui a été introduite et plantée à plus large échelle à partir de 1950 avec le fonds forestier national. Et si on regarde l'homologie climatique, c'est-à-dire que on regarde dans quel climat vit le Douglas dans son aire d'origine et où on trouve ce climat actuellement en France, eh bien on n'aurait absolument pas introduit le Douglas où on l'a introduit. On a introduit le Douglas dans le Massif central et dans le Morvan. Climatiquement, c'est la façade atlantique. Donc on voit bien, là encore, on rajoute peut-être un peu d'incertitude, mais on voit bien encore la diversité des réponses que peuvent avoir les espèces face au climat.
Oui.
Donc voilà. Oui. Et donc le Douglas, en effet, il peut être planté sur de grandes surfaces, mais ce qu'il faut regarder, à mon sens, c'est la diversité à l'intérieur aussi d'une forêt.
Mais il y en a. Mais alors, Hervé Le Bouler, et je m'adresse aussi à vous, tous les auditeurs, je pense, de France Culture, ont près de chez eux une forêt au bord duquel ils voient parfois au détour d'une route des grumes, des tonnes de grumes qui n'attendent que d'être tirées par des camions, qui ont été extraites par des machines de, je sais pas, 40 tonnes qui ont écrasé les sols. Donc c'est une question, l'exploitation de la forêt est quand même une question importante et je pense personnellement qu'elle rejoint celle du changement climatique. On est dans un pays qui exporte des tonnes de grumes vers la Chine, lesquelles reviennent en France, notamment sous forme de cercueils. On dit dans les forêts limousines qu'en matière de bois, la France est un pays du tiers-monde. Qu'est-ce que toute votre bonne volonté de forestier et celle de toutes les associations qui luttent pour sauver les forêts peuvent face à ce rouleau compresseur de l'économie, Hervé Bouler?
Hervé Bouler, puis
Alain Lesturger.
Moi, je voudrais parler du rouleau compresseur des médias, de la pensée commune et d'un certain nombre de bêtises qui sont racontées. Ce n'est pas vrai que le bois des forêts françaises s'en va en Chine pour revenir sous forme de cercueil. Il y a une responsabilité des médias sur le sensationnalisme.
Personnellement, je suis allée faire plusieurs reportages dans les forêts du Limousin et je répète ce qu'on m'a dit les professionnels de la forêt là-bas.
Bon, ce qui y a, par contre, je vais rebondir sur ce que dit Alain Lesturgé, la forêt est malade. La forêt est en arrêt maladie. On va pas demander à quelqu'un en arrêt maladie d'être encore plus productif que s'il était en bonne santé. La première chose actuellement, c'est de prendre soin des forêts et de faire en sorte que toutes les fonctions des forêts se maintiennent, les fonctions de production bois, de biodiversité, de paysage, etc. Mmh. On a vraiment changé de monde et il faut savoir, et il faut que la filière aval comprenne qu'il va falloir faire avec une forêt qui est en difficulté. Ce n'est pas la faute de la filière aval, ce n'est pas la faute des forestiers si le climat a été dérégulé par l'activité humaine. Et vraiment, on est dans un autre monde. Il faut être humble et il faut aussi éviter d'être dogmatique et de penser comme on pensait au siècle dernier avant le changement climatique.
Peut-être que
la première chose à faire, c'est dans sa tête de se mettre dans l'idée qu'on a changé complètement de monde et que ce qu'on croyait vrai, ce qu'on croyait faux et les débats qu'on avait sur ces sujets, ces débats sont complètement dépassés.
En l'occurrence, Hervé Le Boulaire, personne ne rejette la faute sur les forestiers. Et d'ailleurs, on l'a bien vu, le malaise à l'ONF, plusieurs témoignages sont parus dans la presse avec ces agents qui ont ce rôle important de gestion durable. C'est un rôle très très important qu'ils ont et qui ont parfois l'impression eux-mêmes d'être vendus à l'industrie avec ces objectifs contradictoires. C'est la mission de l'État que l'État a donnée à l'ONF, Alain Lesturgé, à la fois une mission de conservation et des objectifs de récolte de bois. Mais personne aujourd'hui ne dit qu'il ne faut pas recueillir le bois. Mais en tout cas, il faut savoir raison garder sur ces coupes rases qui continuent en France.
Alors, là, on disait tout à l'heure, il faut que tout le monde se mette autour de la table. Il faut qu'on redessine les pratiques. Les coupes rases qui sont visibles pour la population sont un traumatisme pour les gens. C'est une pratique de sylviculture. Aujourd'hui, on doit la remettre en question. Aussi. Mais on doit remettre en question toutes les pratiques de sylviculture. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas. Je suis forestier. J'ai pratiqué pendant une vingtaine d'années sur le terrain. Quand je désignais un arbre, je n'avais pas l'impression de commettre un crime contre l'humanité.
Pour le récolter.
Parce que c'est une réponse aussi. La forêt est aussi une réponse à la lutte contre le changement climatique. C'est en stockant du carbone les arbres captent le carbone de l'atmosphère et le stockent. Et il faut récolter ces bois. Alors, on est pour de belles forêts bien entretenues. On est pour du bois dans sa maison. Mais on n'est pas pour la récolte de bois. Il y a un moment, faut être cohérent. On est pour Hervé Le Boulard dit souvent, on est pour le cochon, on est pour la saucisse, on n'est pas pour l'abattoir.
Moi, je pense que ceux qui ne veulent pas de récolte de bois sont très minoritaires. En revanche, c'est sur les coupes rases, les coupes où c'est des hectares entiers qui passent sous les abattoirs.
C'est qu'il faut remettre en question les pratiques. La coupe rase n'est pas nécessairement à rejeter, elle est à examiner. Mais probablement, là je donne un avis personnel, compte tenu du changement climatique, peut-être que ces pratiques-là, il va peut-être falloir les repenser vraiment de fond en comble.
Brigitte Muche.
Oui, moi je voulais juste intervenir pour dire, en fait, il y a les trois S. Il y a le S de séquestration, hein, c'est ce que l'arbre fait, que la forêt fait, séquestrer du carbone. Par exemple, hein, c'est 19% de l'émission de carbone, de CO2 en France, qui est séquestrée par la forêt française.
Vous avez bien dit au début.
Voilà, tout à fait. Après, il y a le stockage. Le deuxième S, c'est le stockage, c'est-à-dire comment on utilise ce bois pour le conserver le plus longtemps possible. Donc, stockage dans la construction. Et la dernière chose, c'est la substitution, c'est-à-dire tout ce qu'on fait avec le bois qui permet de ne pas utiliser d'autres énergies. Alors, ça passe aussi des fois par des coupes.
Je peux rajouter le quatrième S de sillon, scier du bois, sillon du bois. Est-ce qu'il est encore question dans certaines régions de France, Alain Lesturgé, d'installer des scieries géantes comme celles qui avaient été imaginées dans le Morvan? Par exemple, cette scierie géante, c'est le Conseil d'État qui a annulé le projet en 2013. Mais est-ce que, faute de concertation, des régions continuent à travailler sur des projets de scieries géantes qui parfois ont des zones de chalandise de 600 km alors qu'on prétend faire une énergie locale et qui serait, je ne sais pas si vous en conviendrez, une aberration environnementale?
Notre fédération travaille sur les circuits courts depuis 20 ans. C'est-à-dire qu'on considère qu'on a une ressource locale. Et je peux vous dire que pendant des années, on nous a raillé sur cette affaire-là. On a du bois en France. Il faut essayer de l'utiliser au plus près du territoire avec la gestion durable faite par les forestiers depuis des générations et des générations. Il faut absolument développer ça et soutenir les entreprises locales, soutenir l'emploi local. Et ça, c'est une chose qu'on a démontré dans un programme qu'on a appelé « Sans construction publique en bois local ». Et on nous disait « Nos bois français ne valent rien, il faut importer du bois de l'extérieur ». Bon, alors après, il y a l'économie réelle, faut pas se cacher derrière son petit doigt, mais il faut développer ces programmes de circuits courts.
Et tous ces élus locaux qui avaient signé des plans de gestion durable de la forêt, est-ce qu'ils savent ce que c'est devenu ?
Ah ben, les plans de gestion, c'est génétiquement chez eux maintenant. Hein. Je veux dire, ils ne conçoivent pas de gérer une forêt sans avoir l'aménagement fait par l'Office national des forêts et puis et développé. C'est vraiment clairement dans leur camp.
Oui. Brigitte Muche, le gouvernement a annoncé, c'était le 27 juin dernier, une évolution importante de la stratégie de l'ONF avec un plan de transformation sur 5 ans. Il me semble, dites-moi si je me trompe, que l'ONF avançait jusque-là avec des plans à 20 ans. Est-ce qu'on a réduit les délais pour prendre en compte l'incertitude climatique ?
Alors,
ou ça n'a rien à voir ?
Pour moi, ça n'a rien à voir.
D'accord.
quand on parle de plans à 20 ans, c'est ce que M. Lesturgé vient de dire. Hein, c'est des plans d'aménagement de la forêt hein, sur 20 ans. Et là, oui. On commence en effet à réfléchir, à voir ce qu'on appelle des aménagements glissants. C'est-à-dire qu'ils vont être revus, pas tous les 20 ans, mais à pas plus réguliers, parce que on peut avoir des dépérissements. Et donc, il faudra bien trouver des solutions si l'adaptation locale et la reproduction ne suffisent pas à adapter.
Et probablement retravailler ces plans d'aménagement avec la situation du changement climatique.
Tout à fait.
Remettre les gens autour de la table pour avancer.
Hervé Le Boulaire.
Je vais prendre dans les choses qui ont changé. L'ONF est effectivement au cœur de l'avenir des forêts. Toutes les grandes ONG françaises, le WWF, Humanité Biodiversité, la LPO, l'UICN...
Et les petites associations, j'insiste.
Et bien sûr, les 10 000 associations qui sont fédérées à FNE et qui sont représentées au niveau national, on a publié nos propositions pour l'avenir de l'ONF. Dès ce printemps, après le changement de directeur général, on s'est retrouvé avec le nouveau directeur général à FNE, enfin le président de FNE, et on a passé une convention pluriannuelle qui va être signée dans les semaines qui viennent. Et l'une des priorités, c'est le renouvellement des forêts, l'adaptation des forêts au changement climatique, avec un territoire qui va être un territoire sur lequel on va travailler, qui est le secteur des grandes forêts du sud de l'Oise, que ce soit la forêt de Chantilly, qui n'est pas une forêt d'État, qui est la forêt de l'Académie française, les forêts de Compiègne. Et là, on va travailler sur des aménagements de crise, sur des aménagement glissant, parce que quand la situation est incertaine, il faut être nomade, il faut pouvoir adapter la situation, et point qui est important, il faut le faire avec l'ensemble de la société, avec les organisations environnementales, avec les citoyens, avec les élus, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont dramatiques. Quand il y a 20 ans de récolte de bois potentiel qui sont en train de mourir et qu'il faut couper le bois pour éviter qu'il pourrisse, eh bien évidemment, ça fait des trous dans le paysage. Et on est en situation d'incertitude, c'est vrai. Il faut que la société comprenne que les forestiers Ils ont fait des bêtises, ils continuent à en faire. Je pense que oui. La coupe rase est une erreur. Mais il faut comprendre que l'ensemble des forestiers, ce sont des gens qui se sont mis en mouvement pour ne pas baisser les bras et s'adapter et essayer de trouver des situations. Pour, je termine voilà, là-dessus. Les médecins, quand ils ont eu l'épidémie de sida, ils ne savaient pas ce qui se passait. Ils n'ont pas baissé les bras.
La forêt française a d'ailleurs longtemps fait notre fierté. On en est fiers de nos forêts et de nos forestiers aussi. Elle continue à augmenter. Je crois qu'elle couvre aujourd'hui un peu plus de 30% du territoire, 17 millions d'hectares. Est-ce que ça se fait comme ça de décider d'une reforestation, en tout cas de faire pousser une forêt quelque part? Ça se décide comment et comment on discute aussi avec les agriculteurs, parce que ce sont quand même eux qui sont prioritaires quand des terrains se libèrent.
C'est bien le sujet, c'est mettre tout le monde autour de la table, la forêt privée, la forêt publique, les entreprises, les associations, pour arriver sur les territoires à déclencher des actions communes et surtout partager, accepter humilité et action immédiate sur le terrain.
Juste avant l'émission, Brigitte Muche, un auditeur, me rappelait cette citation parfaite de Fernand Braudel dans Identité de la France. Les arbres bordent, pénètrent toutes les activités rurales. La discussion avec les agriculteurs, elle est vraiment primordiale pour vous, puisque ce sont eux qui disposent de terrains aujourd'hui dont vous pourriez peut-être ou pas vous servir.
Alors, pour la forêt publique, non, puisque l'ONF ne gère que la forêt publique, c'est-à-dire forêt de l'État ou forêt des communes.
Et vous en achetez plus du tout,
L'État n'achète pas de forêt. Par contre, la forêt.
Achète un peu de temps.
D'accord. Par contre, la forêt privée, oui. Là, on n'a personne de la forêt privée autour de la table, hein, mais ce que je tiens à dire, c'est qu'on travaille tous les jours avec eux. Il n'y a pas un projet où on soit pas ensemble autour de la table avec nos forces pour prendre ce problème à bras le corps et avancer.
Et accepter aussi de se tromper, de prendre des risques aujourd'hui, parce qu'il faut agir maintenant en acceptant le risque de se tromper.
Et en effet, il y a énormément d'incertitudes. Il faut avancer, on va se tromper, c'est certain, parce qu'on n'a pas tous les éléments pour prendre une décision, mais c'est essentiel de se mettre en mouvement dès maintenant, parce que le temps de la forêt, c'est pas celui des hommes.
Et vraiment, pour conclure, il nous reste quelques temps, Hervé Le Boulaire, il y a des mauvaises nouvelles à l'échelle mondiale, et notamment dans le journal, on rappelait les décisions prises par Bolsonaro sur l'Amazonie. Il y a aussi des bonnes nouvelles, des pays qui plantent massivement des arbres, l'Éthiopie qui a annoncé fin juillet avoir planté 350 millions d'arbres, l'Australie qui a prévu d'en planter 1 milliard d'ici 2050, le Pakistan, etc. Est-ce que vous diriez, vous avez l'impression que c'est par souci environnemental ou pour pouvoir les exploiter dans 30 ans? Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas, tout ce qui est en train de se passer?
C'est vraiment une bonne nouvelle que ces pays le font. Je pense que c'est la prise de conscience que dans ces pays, il y a des surfaces qui sont des surfaces gigantesques, des terres qui ont été dégradées. Je rappelle que la FAO dit que en modifiant les pratiques agricoles, on est capable de nourrir toute la population mondiale sans augmenter les surfaces. La situation de la France est vraiment différente. Mmh. Les forêts augmente de surface spontanément de 100 000 hectares par an actuellement. On n'a pas connu ça depuis la dernière glaciation. Je pense que les enjeux pour nous en France, c'est pas d'étendre par des plantations des nouvelles surfaces forestières. On a besoin des terres agricoles, on a besoin de maintenir l'élevage. C'est de gérer, de prendre soin des forêts qui existent.
Et
là, on a largement de quoi bosser.
Merci beaucoup Hervé Le Boulaire, Brigitte Muche et Alain Lesturgé d'avoir été avec nous ce soir. Je mentionne aussi Le Temps des Forêts, ce film de François-Xavier Drouet sorti en fin d'année dernière. Et puis pour l'évocation magique de nos sous-bois, à voix nue, avec le conteur bien nommé Pierre Dubois par Céline Duchesnay sur le site de France Culture. Merci à l'équipe du Grain à Moudre d'été, Stéphanie Villeneuve, Alia Tovine, Léa Capuano, Valentin Berg et Roxane Poulain. Cette émission a été réalisée par Pablo Valero et Milena Hellig, avec la prise de son Laurie Vachon et Laurent Mainviel à France Bleu Gascogne, que je remercie. Un mot encore pour vous dire que France Culture va bouleverser quelques programmes pour rendre hommage à l'écrivaine Toni Morrison, dont nous avons appris la mort cet après-midi. Ce soir à 20h, en lieu et place de la Masterclass, seront rediffusés deux épisodes de l'émission À voix nue, où elle se confiait à Clémence Boulock, c'était en 2006, et puis demain, les matins d'été lui consacreront leur partie culture. Benoît Bouscarel recevra entre autres celui qui fut son traducteur, l'écrivain Jean Guillouano, ainsi que l'éditrice Dominique Bourgois, et bien sûr tout un dossier à retrouver sur franceculture.fr. Dans un instant, Matière à penser.